avec beaucoup de retard dont on s'excuse, et encore un petit peu de retard parce qu'on doit présenter toutes les personnes avant le cours. On est malgré tout aujourd'hui le mercredi 21 Tammuz et on est le 8 août. Et le cours sera aujourd'hui. Et on est le 8 juillet. Le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Cécile Léa Bat Suzanne Rachel, ainsi que pour celle de Serka Bat Yehuda, Bat Yehudit, de Esther Teila Bat Rachel, de Céline Mesouda Bat Julie, et toutes les bénédictions et la réussite dans tous les domaines de Yehoshua Ben Eliaou Vesimcha. Donc on continue notre cours sur les psaumes. Vous vous rappelez qu'on a commencé une étude dans le Malbim absolument importante, fabuleuse. On va rentrer encore aujourd'hui un peu plus dans le vif du sujet, de comprendre ces deux anagotes, ces deux manières dont Hachem dirige le monde. Un bref résumé par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière, que Hachem donc dirige le monde de deux manières, de la manière qu'on appelle naturelle, Teva, et d'une manière qui est surnaturelle, qu'on appelle le miracle. Et dans le langage du Malbim, c'est très 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 important, je ne sais pas si on l'a à ce point expliqué, ces deux anagotes proviennent en hébreu, la anagativit, donc la manière dont Hachem dirige le monde à l'intérieur des lois de la nature, cet endroit d'où viennent ses forces, ses règles, ses énergies s'appelle Shamaïm, et l'endroit d'où viennent les forces qui permettent, les forces et les énergies qui permettent un bouleversement des règles naturelles afin que le monde puisse se comporter selon d'autres règles que l'on appelle dans notre langage courant et profane le miracle, donc ces énergies proviennent d'un autre endroit qu'on appelle Shrakim en hébreu. Alors ce qui est très très important avant de voir plus loin, c'est que déjà ça nous montre, contrairement on pourrait dire à une vision très très ignorante, très très puérile et très au ras des pâquerettes du miracle, qui dit bon ben tout d'un coup Hachem comme un magicien avec une baguette magique, il tape sur les eaux et elles s'ouvrent, parce que bon c'est un miracle, il n'y a rien à comprendre. En vérité nos maîtres savaient depuis des millénaires que le miracle ne fonctionne pas différemment que la nature. De la même manière que la nature, pour pouvoir fonctionner, elle a besoin de règles, de forces, d'énergie, de lois, et que le monde bouge parce qu'il est mu par des forces, des énergies qui elles-mêmes sont réglées et dirigées par des lois et des règles, exactement de la même manière, lorsqu'il y a un miracle, ce n'est pas un coup de baguette magique, baguette tenue par Dieu et qu'il tape sur les eaux, elle s'ouvre, pas du tout ça. C'est-à-dire nos maîtres savaient depuis des millénaires que non, que le miracle fonctionne d'après des règles, des structures, des énergies et des forces qui proviennent aussi d'une source qui n'est pas moins réelle que la source de laquelle proviennent les forces qui dirigent la nature. Simplement qu'évidemment que nous vivant dans le monde, on pourrait dire extérieur, matériel, nous ne connaissons, ne pouvons étudier, ne pouvons découvrir que les forces qui gèrent les lois de la nature. Par contre, on n'a pas accès à ce réservoir, à cette source de force qui gère les lois surnaturelles, parce que tout simplement, prisonnier de notre enveloppe physique, prisonnier de notre corps physique, on n'a pas, nous, accès à cet endroit-là. Mais par contre, les prophètes, pour ne parler qu'eux, ils ne sont pas les seuls, mais les prophètes qui avaient cette transparence qui leur permettait de traverser ce monde et de voir ce qui se cache dans des mondes plus immatériels, ont perçu cet endroit qu'on appelle Shrakim, et donc c'est pour ça que pour eux c'était une évidence que quand il y a un miracle, c'est tout simplement que qu'est-ce que fait Hachem, d'une certaine manière dit à un premier niveau, ben, tout simplement il neutralise Shamayim, il neutralise la source qui envoie des énergies naturelles, et il ouvre le robinet de Shrakim, c'est-à-dire de cet endroit qui envoie des forces surnaturelles. Ça veut dire que c'est tout aussi normal pour l'eau de s'ouvrir et de se dresser en muraille que pour l'eau de se fermer et de couler. Pourquoi ? Parce que les énergies qui font que chaque goutte d'eau est assemblée à l'autre et l'ensemble coule, ces énergies, c'est celles auxquelles on est habitué. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est une normalité de voir le liquide fonctionne de cette manière-là. Mais si on était habitué, si les shrakim étaient toujours ouverts, alors on serait habitué à voir que l'eau peut se dresser en muraille. Et on serait habitué, nos enfants naîtraient dans cette situation, la verraient comme une évidence. Et figurez-vous, mes amis, ça c'est un des plus grands enseignements de nos maîtres, que si on vivait dans un monde où les eaux s'ouvrent toujours comme murailles et que pour une raison quelconque, Hachem déciderait de les fermer, tout le monde dirait oh, « Quel miracle de l'eau qui coule !» C'est tout simplement c'est une question d'habitude. Donc on est habitué à vivre selon le Shamaïm et non selon le Shrakim. Mais si c'était le contraire, ça serait donc l'effet contraire et aussi l'exclamation contraire. Oh, tu as vu de l'eau coule. Voilà. Comprenez? Donc en vérité, si je devais résumer avant de commencer le cours, il n'y a pas de miracle, mes amis. Ça, je crois que j'ai dit des milliers de fois. Il n'y a pas de miracle. Il y a deux types de forces. Des forces auxquelles on est habitué parce qu'on les voit en permanence. Des forces auxquelles on n'est pas habitué et donc on appelle ça un miracle. D'accord. Ok. Maintenant, le problème est, regardez ce qu'il va dire. Veine, mais sache. Après que tu aies bien compris ces deux notions, sache. Que fia medoumé les venait Adam, malgré tout, même dans le monde des croyants, se perpétue une erreur fondamentale qui est la suivante. Yidme la haine, alors là on parle des croyants comme vous allez comprendre, la grande majorité des croyants, et j'inclus 99% des juifs, Yidme la haine ont l'impression que ce qu'on appelle le fonctionnement naturel des choses, akavua bashamaim, qui provient du monde qu'on appelle, enfin de l'endroit qu'on appelle shamaim, ve'anaga nisit, de même l'autre manière de fonctionner que l'on appelle le nes, le miracle, shekavua bashrakim, qui elle provient de l'endroit qu'on appelle shrakim, que chez Ateva, Teler Tamid, les Fichoukea Kvouim, que qu'est-ce que la majorité des gens pensent? Que chaque monde, le monde de la nature et le monde du miracle, que chaque monde, Teler les Fichoukea Kvouim, que la nature, pardon, elle, fonctionne toujours selon ses règles naturelles. On va lire pas mal là parce que c'est fondamental ce texte. Velotishtane Beshum Pam Meatzma, et que la nature elle-même, lorsqu'elle fonctionne d'après ses règles à elle, ne peut pas fonctionner autrement que d'après ses règles à elle. Laissez-moi continuer le texte, ça va s'affiner, vous allez voir, c'est absolument fabuleux. Rak, alors comment, si la nature ne peut pas changer ses propres règles, alors comment le miracle est possible? Rak, seulement. Là, on parle de la majorité des croyants. Et yirtzi Hachem, quand Hachem veut, l'inog anaganisit, lorsque Hachem veut qu'agisse maintenant une influence qui provient de Shrakim, donc du monde des miracles, Ya'azov Chuka Mativiim, Shadotam, il bloque, c'est ce que j'ai dit moi tout à l'heure, je l'ai fait exprès parce que je ne voulais pas faire le cours à sa place, mais c'est faux, on va dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est trop vaguement dit. Donc, il reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens ont l'impression que donc que pour qu'il y ait un miracle, il faut que Hachem neutralise les énergies naturelles, Veishaded otam, il les neutralise. Beofen she'anes enoba min ha-shamayim, de manière, parce que le miracle, lui, ne peut pas venir du shamayim, il ne peut venir que du shrakim. Il ne peut pas donc, le miracle, les énergies du miracle ne peuvent pas passer par la nature. Rak alide amdat ha-shamayim, donc il faut bloquer les énergies naturelles. Veshvitat kocham, et donc les empêcher d'agir. Ve'agbarat korashrakim, et permettre au shrakim d'agir. Comme deux robinets, un d'eau chaude et un d'eau froide, d'accord? Ou plutôt non, on pourrait dire même un robinet, mais il y a deux boutons, celui qui lie le robinet au canal, pas au canal, au tuyau d'eau chaude, et un autre bouton qui lie le même robinet. Le robinet, c'est bien sûr un autre monde, au canal d'eau froide. Alors je ne peux pas avoir les deux en même temps, parce que le robinet, il peut ou se connecter à un tuyau ou à l'autre, il n'a qu'un seul trou. L'exemple est très 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 bon pour comprendre ce qu'il explique. Et donc je ferme un robinet, alors à ce moment là le trou est libre pour le canal de droite. Je ferme l'autre robinet, le trou est libre pour le canal de gauche. Mais c'est absolument impossible que l'un puisse fonctionner quand l'autre fonctionne. C'est comme ça que nous, on pense. Ou le fizé, donc, et d'après cette explication qui est fausse, Asrar ve'aonesh, donc, ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire ce que nous croyons, c'est plus que de la croyance, c'est une certitude pour un bon juif, qu'il y a oui une rétribution dans ce monde, c'est-à-dire que les actions de l'homme peuvent être comptabilisées dans ce monde, il peut être récompensé lorsqu'il fait le bien et il peut être puni lorsqu'il fait le mal, c'est pas visible toujours facilement, mais quoi qu'il en soit, c'est le ou l'un des fondements de notre foi que Hachem n'a pas abandonné son monde et qu'il peut punir ou récompenser, dans ce cas-là, enam tivim. Donc, srar ve'onesh, écoutez bien, parce que c'est fondamental, je ne sais pas si ce coup vous intéresse autant qu'à moi, mais moi c'est un des textes qui, ces dernières années, m'a le plus bouleversé, tellement c'est profond et c'est clair ce qu'il dit. Parce que c'est un résumé de toute la foi d'Israël, ce qu'il est en train de dire. Je vais aller doucement. Donc, d'après cette explication comme quoi les deux mondes sont séparés l'un de l'autre, automatiquement la notion de srar ve'onesh provient de... C'est un S, c'est un miracle, srar ve'onesh. Retsoni, c'est-à-dire, shal yede sheishmor adam mitzvah. Parce que si tu dis que quand un homme se comporte bien, ou yavor avera, ou s'il se comporte mal, lotishtane ateva ba'avur, d'après ce que je viens d'expliquer, il est absolument impossible que le bien qu'un homme fasse ou le mal qu'un homme fasse puisse avoir une influence sur les lois de la nature. Parce que dans la nature, il n'est pas marqué que quand un homme est gentil, une pierre que tu lâches, elle va descendre plus vite. Ou elle descend moins vite. Elle va descendre moins vite. Imagine-nous que, et malheureusement, tu passes à un endroit où, dans un immeuble en construction, l'eau allait nous, l'ouvrier d'en haut, il a fait tomber son marteau. Il est dans les lois de la nature. Elles ne connaissent pas celui qui va passer en bas. Donc, tu ne peux pas dire que sous prétexte que c'est un sadique, un juste qui va passer en bas, le marteau va descendre moins vite le temps qu'il passe et qu'il soit pas, qu'il ne soit pas sur la tête. D'après les lois de la nature, c'est impossible. On a tous fait des maths physiques à l'école, on n'a pas une gravité qui dépend si c'est un méchant ou un gentil qui passe en dessous. Donc, les lois de la nature, elles se fichent royalement de savoir à qui appartient la tête en bas. Donc, si d'après les lois de la nature, tu passes au moment où, à ce moment-là, le marteau doit arriver exactement là où tu as ta tête, tu as la tête qui explose. Donc si effectivement, tout d'un coup le marteau s'est mis à descendre moins vite, c'est que forcément il y a eu un miracle. C'est possible, nous y croyons. Moi j'y crois sérieusement que c'est possible.
C'est pas comme ça qu'il fait le miracle.
Mais,
c'est
non.
Le mec il est en train de se baisser pour attacher ça à son lacet. Là, c'est ça le miracle, c'est pas le marteau qui s'arrête au milieu, ça c'est de la science-fiction.
Ah non, c'est un miracle.
Mais c'est de la science-fiction, Hachem il fait pas le miracle comme ça.
Ah non.
Il fait que le marteau s'arrête au milieu.
Non, j'ai moi, pas dit ça non plus. Attends, j'ai répondu d'abord.
C'est important.
Non, on se met d'accord.
Hachem ne bouleverse pas la nature. Un miracle, c'est pas le bouleversement de la nature.
Mais
ça, c'est
pas
arrivé moins vite.
Si vous me faites maintenant les bombardements du...
Moi, c'est ce qu'on m'a appris au Talmud Torah. Hachem bouleverse la nature pour un juif.
Je vais répondre à toutes tes questions. D'abord, je reviens à la question de... Il y a différents miracles. Là, je parle du miracle réel. Le prophète Elisha, l'élève de Eliyahu Hanavi, d'accord ? C'est dans les textes. Et si vous lisez la Bible, vous verrez que ce genre de bien, vous avez la science-fiction, c'est du courant, mais alors autant que d'acheter une bouteille de coca et la boire. Le prophète Elisha, il passait près d'un endroit, il a entendu des gens pleurer. Pourquoi ? Parce que c'était une... Je ne rappelle plus, peu importe, bon, c'est ce cas. C'est ça, et c'était une femme qui avait fait tomber ses bijoux dans l'eau. D'accord ? Elle pleurait, comment je vais rentrer chez moi ? Comment mon mari va me déchirer ? Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Elahu ? Il est où ? Il avait un couteau sur lui, un couteau en fer. Il a jeté le couteau dans l'eau, d'accord ? Et le couteau est remonté avec le collier. C'est un texte explicite. C'est de la science-fiction, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle chez nous un miracle.
Oui, comme quand il a fait arrêter le soleil, tout ça. Mais voilà. C'est à l'époque, maintenant.
Donc, maintenant.
Mais c'est pas bouleverser la nature.
D'abord, on voit un texte. D'abord, ça, c'est un miracle. On parle, pour l'instant, de ce genre de miracle. Donc, on se met bien d'accord. Ce que vous dites en est un aussi, mais on en parlera après. Pour l'instant, on parle de miracle qui, effectivement, ça ne me dérange pas ce que vous dites, serait appelé dans un langage moderne de la science-fiction. Mais c'est de ça qu'on parle. La Torah est remplie de science-fiction.
Moshe Rabbeinu avait fait remonter les ossements de Yosef.
Oui, bon, ça c'est Torah chez Baal Pé, disons, mais absolument. Oui, et d'ailleurs, ouais, ben oui, d'après la tradition, en jetant un morceau de fer, il a fait remonter le cercueil de Yosef qui était caché dans le nid.
Cercueil de plomb.
Voilà, cercueil de plomb. Quelle est la question maintenant ?
Vous dites que 99% des juifs pensent ça, d'accord ? Donc c'est faux ce qu'ils pensent. Moi, on m'a toujours appris Hachem pour un juif capable de bouleverser la nature. Mais en réalité, c'est pas un bouleversement.
Alors, c'est vrai qu'Hachem bouleverse la nature. Ce qu'on va voir, le texte est long, c'est la manière de le comprendre. Est-ce que, pour pouvoir qu'Hachem puisse bouleverser les lois de la nature, c'est clair, puisque la Torah est remplie de preuves, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est déjà un autre problème. Mais maintenant, parlons du texte lui-même. Hachem parle effectivement de science-fiction possible. D'accord ? Je vous signale que ce que nous appelons nous la science-fiction, d'accord ? Ça fait longtemps que la science-fiction est dépassée, parce que nos films de science-fiction de notre jeunesse, aujourd'hui, l'armée d'Israël, elle a dépassé depuis longtemps. Hein, parce que avec, nous, on a des, nos pilotes ont des casques avec une pensée, le missile, il s'en va. Une pensée. Israël est un des rares pays au monde qui a ce casque-là. La pensée envoie le missile, c'est-à-dire que tu gagnes la fraction de seconde qui fait que tu es le premier à descendre l'avion en face. Tu n'as plus besoin d'appuyer sur un bouton. Donc la science-fiction, excusez-moi. Donc, faites attention aussi quand on dit science-fiction, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où on n'a plus le droit de dire science-fiction, parce que tout ce qu'on croyait impossible aujourd'hui, c'est du passé. Et un jour viendra où on se rendra compte qu'il existe certaines énergies dans le monde qui font que quoi, seulement on ne les connaît pas aujourd'hui, qui font qu'un morceau de fer peut aller chercher un collier dans l'eau et remonter avec. Ne me dites pas science-fiction, parce qu'il y a 50 ans seulement, si vous aviez dit un casque qui est sensible à la pensée, vous auriez dit, c'est même plus de la science-fiction, c'est impossible. Et l'armée israélienne possède ce casque-là. D'accord. Donc, de toute façon, je veux dire, je préfère dire des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui encore comment ça fonctionne. Et si vous aviez dit il y a 100 ans à quelqu'un que vous êtes à Jérusalem et qu'avec un morceau de plastique, vous arriverez à parler à quelqu'un qui est à New York, il vous aurait dit, c'est même pas de la science-fiction, c'est un rêve impossible. Pourquoi ? On a trouvé les énergies qui permettaient que l'impossible devienne réel. Donc sachez, puisque c'est tout à fait le cours qu'on a commencé, que ce que nous appelons encore aujourd'hui miracle, c'est tout simplement parce que nous ne connaissons pas ces énergies-là. Le prophète Elisha, j'avance dans le cours, je viendrai en arrière. Le prophète Elisha, il n'a pas fait un miracle. Simplement que lui, il connaissait des forces dans le monde que les hommes, jusqu'au jour, ne connaissent pas. Comment le fer jeté dans l'eau fait pour remonter à la surface ? Le prophète Elisha connaissait ces forces-là. Il s'est tout simplement connecté à ces forces-là et hop, il a fait remonter. Comment du fer qui remonte à la surface ? Ben oui, mais vous, aujourd'hui, vous ne connaissez que seulement les forces qui font que le fer descend et ne remonte pas. Mais il existe des forces qui permettent au fer de remonter. Comme il existe des forces qui permettent à un morceau de plastique de me permettre de communiquer avec...
Vous parliez du marteau qui tombe, qui s'arrête, le gars passe et continue. C'est Hachem qui fait le mérite directement.
Alors justement, c'est ça le sujet. Que la chose soit possible, d'abord Yosef, mettez-vous clairement dans la tête. Si ce n'est pas nous, nos enfants, nos petits-enfants, un jour viendra où effectivement une chose jetée, d'accord, pourra s'arrêter. C'est clair.
Par la
pensée, par une énergie qui sort de la main, peu importe. Ce qu'on appelle aujourd'hui la science-fiction, qui demain sera évident et puis ça fera même plus... On n'est pas loin, ça c'est pour nous encore de l'époque, où quelqu'un se mettra devant un mur, il fera comme ça sur le mur, hop, il y a un écran qui apparaît. Et il appuie sur le mur, mais non. Mais Yosef, de quoi on parle ? Yosef, de quoi on parle ? Je voudrais que vous compreniez de quoi on parle. Avec mon doigt, je fais comme ça et j'ai un écran sur le mur et j'envoie un fax sur un mur vide. Ça existe déjà.
Ce qui veut dire ce qui nous paraissait miracle.
Donc, qu'est-ce qu'on comprend ? Il n'y a pas de science-fiction, il n'y a pas de miracle. Il y a simplement des aspects que l'on connaît de la réalité, d'autres que l'on ne connaît pas. Maintenant, encore une fois, c'est là que va être tout le problème. Donc, en vérité, il est tout à fait possible, mais pas d'après les lois de la nature que l'on connaît aujourd'hui. J'ai déjà fait tout le cours, mais je vais le reconstruire. D'après les lois de la nature qu'on connaît aujourd'hui, si c'est le tzaddik qui passe sous le marteau qui tombe, et que pour un homme normal, le marteau aurait dû toucher sa tête, pour le tzadik aussi. La nature ne connaît pas une différence entre telle gravité et telle gravité. On peut être entre telle tête ou telle tête. La gravité est la même pour tout le monde.
Mais alors pourquoi il y a 10 miracles qui ont été faits avant la création? Pourquoi la Hachem a besoin de dire attention, mère, je vais te créer, mais sache que tu vas t'ouvrir pour mes enfants.
Mais c'est
il n'y a pas besoin de dire ça puisqu'ils ouvrent le robinet.
Non, justement, c'est ce qui va expliquer. C'est pas ça. Bon, je vais devancer le cours, sinon vous ne laisserez pas le faire. Mais après, je vous l'entends dans le texte. Le fait est. C'est qu'au moment où la tête du juste, mais vous ne vous fichez pas de moi, vous me promettez ?
Bien sûr.
Au moment où la tête du juste, d'accord ? Un homme est bourré d'énergie. Un homme est bourré de rayonnement et il est macri, il envoie des rayonnements énormes autour de lui, on le sait tous. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Au moment où la tête du juste passe sous le marteau, la tête du juste est capable d'envoyer une force contraire. D'accord ? Ce n'est pas exactement ce qu'il va dire, mais pour l'instant, vous me laissez continuer. Une force contraire qui va s'opposer à la force qui descend. Toi et moi, on n'a pas cette force-là, parce qu'on n'a pas suffisamment de bien en nous pour envoyer des énergies comme celle-là. Mais le juste, oui, qui va retenir, c'est-à-dire que bon, ce n'est pas perceptible à l'œil, ça va se jouer à 2-3 secondes. C'est-à-dire qu'au lieu de, au lieu que le marteau va descendre en 5 secondes et toucher la tête de quelqu'un comme toi et moi, le marteau va descendre en 7 secondes, les deux secondes salutaires qui vont faire que la tête du juste va passer. Celui qui voit ça, il va dire, waouh, quelle chance il a eu. Nous, on ne va rien voir, parce que ça descend en 5 ou 7 secondes, pour notre œil, on ne voit rien. Mais la vérité, c'est que la tête du juste, à ce moment-là, elle a envoyé une énergie qui a bloqué légèrement la descente. Voilà, alors maintenant, tout le problème...
On échappe à l'accident.
Ah, ça, c'est ce que Yosef a dit. Alors, c'est ce que Yosef a dit. Voilà. Alors, Yosef a dit, voilà, au moment où il passait, d'accord, quelqu'un l'a appelé, il s'est retourné. Ou bien, ça l'a gratté, il a fait comme ça, et ce petit mouvement, paf, ça lui a touché que l'épaule, ou ça l'a égratigné. Effectivement, c'est aussi une forme de miracle. Mais c'est moins miraculeux de ce dont moi je parle, ce dont lui parle. Lui parle du miracle netto, du vrai miracle. Ça veut dire celui où véritablement il a fallu dégager une nouvelle force pour aller contre la première. D'accord ? C'est-à-dire que ça, c'est déjà de la science-fiction. Alors, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Non. Le bien et le mal dégagent des forces qui proviennent du monde qu'on appelle Shrakim. D'accord ? Et de la même manière que la nature a ses énergies, Shrakim a ses énergies. Et Shrakim, la puissance des énergies, c'est qu'elle concerne l'homme et non la nature, et que l'homme en bénéficie dans le bien comme dans le mal. Ça veut dire que si cet homme-là mérite de recevoir une force de Shrakim, par exemple une force positive, il pourra légèrement freiner la loi de la gravité et passer avant que la pierre ne le touche. Vice versa. Shrakim peut faire que si c'est un rachat qui passe, d'accord, à ce moment-là, il envoie une énergie dans la main de l'ouvrier, et à ce moment-là, ou la main de l'ouvrier s'ouvre et le marteau tombe, ou bien, s'il est déjà tombé, il va tomber plus vite encore. Vous ne fichez pas de moi quand je dis des choses pareilles. Je reste votre rave quand même.
Très bien. Tous les jours, il y a Rossé, Nifla, Hot et Vado.
Très bien.
Je sais que vous n'aimez pas ça. Shamaïm, c'est traduit ciel, cieux,
oui,
en français. Shrakim, ce serait quoi ? La traduction.
Non, si déjà la traduction française fausse dans les deux cas,
vous aimez pas ça,
Shamaïm, c'est ciel, Shrakim, c'est cieux.
Ah,
si déjà on traduit en français, ciel et cieux, c'est-à-dire cieux qui font allusion à une dimension beaucoup plus haute. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est uniquement le ciel, on ne voit pas les cieux. Parce que justement, ça fait allusion à ces deux dimensions, la matérielle et l'immatériel. L'immatériel, mais qui existe. Donc ici, encore une fois, je parle d'un vrai miracle, mais on n'a pas encore commencé le cours, Bémel. C'est normal, puisqu'on est en train maintenant de placer le comment des choses.
Non, mais c'est des énergies qui se dégagent sans...
Par mes mérites.
Oui, c'est-à-dire, je ne suis pas conscient, mais je ne dis pas, tiens, j'envoie une énergie pour bloquer le marteau, pour que la voiture s'arrête. Ça se passe tout seul.
Bon, il y a une histoire très célèbre avec le Balatania et Rabbi Yitzhak de Berditchev. Ils ont marié leurs enfants, je ne sais plus, le fils avec la fille, qui était le fils et qui était la fille. Et donc ils avaient prévu un très 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 grand oulam, une très grande salle, parce que les deux avaient des centaines de chassidim. Et donc ils se sont dit, on va se retrouver avec des milliers de personnes, donc ils ont vraiment loué vraiment ce qu'il y avait de plus grand à l'époque en Ukraine. Mais est arrivé encore beaucoup plus de monde que prévu. Et c'était plus possible de sortir de là. Il y a eu un moment où Rabbi Yitzhak de Berdichev, il se sentait pas vraiment. Vous n'allez pas rire de moi, hein. C'est promis. Hein. Non, mais vous dites pas que c'est le Rav qui vous a raconté une histoire pareille, parce que je vais être discrédité. Ils vont dire, quand vous étudiez avec un homme pareil, vous êtes complètement fou. Donc je continue. Et donc, il y a eu un moment où Rabbi Yitzhak, il s'est senti pas très très bien. Il avait besoin de respirer de l'air. Il y avait des milliers de personnes dans la salle. Et donc, il a dit au Balatania, il a dit, viens, on sort, j'en peux plus. Il dit, comment tu peux sortir? Tu as l'impression de sortir. Il dit, mais c'est pas grave, on passe par le mur. On passe par le mur. Alors l'autre lui a répondu, non, chez nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. Et les chassidim font remarquer qu'il lui a pas dit, mais comment tu vas faire? Il dit, non, on n'a pas l'habitude de faire ça. On passe par le mur. Il y en a un qui rigole, je le fous dehors. Ah oui? Une photo, elle ne peut pas passer par un mur? On ne peut pas aujourd'hui, l'armée ne peut pas photographier ce qui se passe derrière des murs de béton de 2 mètres d'épaisseur. On peut pas, il n'y a pas des appareils qui aujourd'hui photographient ce qui se passe à 10 mètres sous terre. Et le laser, il ne traverse pas le mur. Et Rabbi Yitzhak, lui, il ne pourrait pas traverser un mur.
Le tunnel du Hamas.
Comment?
Le tunnel du Hamas.
Pour moi, c'est des vrais tunnels,
ceux-là. Non, mais ils ont vu.
Ah, comment ils ont vu?
Du ciel, tu peux les voir.
Comment?
Comment du ciel, tu peux les voir?
Ah, bien sûr, évidemment. Je ne m'enlève pas la question, évidemment. Les tunnels de Temes qui sont construits avec l'argent des Français.
Éventuellement.
Surtout les Français, c'est les Français.
Les Européens.
Fabius, tout ça, quoi, qui donne beaucoup d'argent pour construire les tunnels, pour tuer des Juifs. Comment?
C'est pas correct de dire ça?
Ah non, c'est pas Fabius qui donne de l'argent au Hamas, je croyais. Donc, quoi qu'il en soit, donc évidemment que on a des possibilités aujourd'hui de traverser la matière. Simplement que quoi? Que Rabbi Yitzhak connaissait un peu mieux ses énergies qu'aujourd'hui. Lui, il était capable avec son propre corps de le faire. Mais un jour viendra, mes amis, où ça nous paraîtra de la gnognotte, ce genre de choses. Peut-être dans 200 ans, 300 ans. Mais à la rapidité où va la science aujourd'hui, on ne parlait plus jamais de science-fiction. Un jour viendra où on saura comment traverser un mur. Évidemment. Comme on saura comment qu'on fait comme ça. Hop, on crée un écran, on envoie un mail.
C'est toujours de la science-fiction à ce jour.
Oui, si vous voulez, mais seulement...
Seulement... C'est la science-fiction, que ça se fait, c'est la science.
Ça ne me dérange pas, mais avec la rectification que j'ai dit, c'est que ce qui est science-fiction aujourd'hui ne le sera plus demain.
Est-ce que vous pouvez nous dire sur le schéma de forage, ceux qui connaissent le secret du schéma de forage,
c'est un texte dans la Gemara explicite. Un jour, Rava et je ne sais plus qui, Rav Rizda ou Rav Zira, ils s'étaient perdus dans le désert. Ils étaient en train de mourir de faim. D'accord. Alors, il y en a un qui dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est pas grave, on va manger. Comment tu vas manger dans un désert? Eh bien, on va amener un animal. Et comment tu vas amener un animal? Il a fait une petite formule, etc. Et arrive un animal. Le problème, c'est qu'après, il s'est posé la question, mais est-ce qu'il faut faire la shrita ou non? Est-ce qu'il faut faire la shrita sur un animal naturel, mais sur un animal qui n'est pas naturel, est-ce qu'on fait la shrita ou non? Et la réponse, c'est que je crois qu'il ne faut pas faire de shrita. Mais il a fait venir un animal. Non, mais je voulais pas raconter toutes ces histoires parce que je me suis dit, ça va être trop. Mais si je commence, je m'arrête pas. Parce que dans des histoires comme ça, je vous en rapporte et rapporte et rapporte et rapporte et rapporte et rapporte. Je vous rapporte aussi l'histoire de cet homme-là qui vivait avec sa femme dans un endroit très 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 éloigné, etc. Il n'y avait personne aux alentours. Et puis sa femme a mis un enfant au monde et elle est morte à l'accouchement. Et il s'est mis à pleurer doublement, maître du monde. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu aussi mon fils. Qui va me nourrir? Donne-moi des tétés. Ben oui, il lui a poussé des seins, il a allaité son fils. Ben oui, c'est dans le Talmud. Hein. Le premier qui rigole, gars, lui. Pas vous, le Marocain, vous y croyez pas? Alors
mais, là, aujourd'hui, dans la socialité des études...
Non, l'Ashkenaz, lui, il ne croit pas. Alors, M. Rickner, alors là, il est en train de me regarder, il dit, ah, j'espère pas que je viens ici. Pourtant, il est Ashkenaz, le Rav aussi, il ose. Mais comment qu'il ose? Non, ben oui, mais c'est pas moi, c'est Talmud. Alors, Talmud, t'es marocain, je vous le dis.
Mais dans la science aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a eu des études, je crois les Chinois et les Japonais, ils ont fait des études sur le fait que la parole, quand on faisait des louanges, par exemple, à l'eau, alors l'eau, elle avait des qualités beaucoup plus grandes, et quand on arrosait avec cette eau les plantes, elles poussaient mieux que si on prenait de l'eau où on ne lui avait pas fait de... Je sais pas,
le livre, livre qu'on trouve en français de Rav Zamir Kohel, Révolution, où c'est un livre... C'est que des preuves scientifiques qu'une bonne parole influence parce que ça dégage des énergies. On le sait aujourd'hui.
C'est la kétorette qu'on lit tous les matins.
Mais bien sûr,
évidemment. Quand t'étais fédile, il a une aura spéciale sur lui, qu'alors que vous ne les portez pas, il n'y a rien.
Bien sûr. Viendra un jour, mes amis, d'accord, vous m'entendez, mais seulement le problème, c'est que ça va être la faillite de la médecine. Viendra un jour où quelqu'un de malade, d'accord, on le mettra en présence de gens qui n'ont que des bonnes paroles, avec une bouche propre, qui ne s'est jamais salie, et qui dégage des énergies inimaginables, d'accord. Eh bien, mes amis, bien sûr, eh bien, cette personne guérira. Il y en a un qui rigole, et dites-moi, c'est quoi les acranotes, c'est quoi les rayons qu'on envoie pour détruire un cancer? Pourquoi les rayons marcheraient et l'énergie de la bouche ne marcherait pas? Pourquoi des rayons d'une machine peuvent marcher, bien qu'en vérité, ils tuent plus que ce que ça marche, mais des rayons peuvent marcher et une bouche propre ne marcherait pas? C'est la bracha du tzaddik, bien évidemment.
Des milliers de kilomètres pour prendre une bracha d'un tzaddik,
évidemment. Évidemment. Parce que quand le rabbi de Lubavitch ou un autre, d'accord, vous dit, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, vous croyez que c'est le tout ira bien qui compte? C'est qu'au moment où il a dit tout ira bien, chaque lettre du tout ira bien est rentrée dans la personne et commence à faire un effet. Mais évidemment, et chaque juif croit en ces choses-là. Donc au lieu d'aller chez le médecin et te faire des acranotes et te bousiller autre chose pour réparer un truc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez un vrai tzaddik, on a dit que jamais de sa bouche il a sorti un mauvais mot de sa bouche, depuis qu'il est né, depuis le ventre de sa mère, jamais un mauvais mot est sorti de sa bouche, il a un pouvoir dans sa bouche, et dit, Yetov, mais imirtse Hashem. Alors lui on croit qu'il m'a dit que tout ira bien, mais t'as rien compris. Au moment où il t'a dit, Yetov, imirtse Hashem, il a calculé le nombre de mots et de lettres qu'il avait besoin de dire, c'est-à-dire que selon la personne, ce ne sera pas la même formule, comme on s'en aperçoit. Un, il dit Refoua Shelema, un autre il dit Yetov Yerzat Hashem, un autre il va dire En Kvarbaya Ken, Akol Beseder, à chacun il lui dit la formule qui correspond au nombre de lettres nécessaires pour que le rayonnement commence, la akrana commence, évidemment. Maintenant, pourquoi est-ce que ces gens-là, ils sont constamment branchés au Shrakim, pas au Shamaim? Mais un jour viendra l'Imot HaMashiach, nous les Juifs, on ne vivra que dans ce monde-là. L'imote à ma chère, il n'y a plus de médecin, il n'y a plus de dentiste, il y a plus... c'est fini tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est guéri par les énergies positives. Et donc en vérité, regardez ce qui est dit. Un verset très connu, comment expliquer dans le Talmud. Kol amachala asher samti bemitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Qui c'est qui me montre qu'il y a une faute incroyable dans ce verset-là? Faute de syntaxe. Quelle est la faute de syntaxe? Vous êtes balcoré. Alors, où est la faute de syntaxe? Il y a une faute. Il y a une faute dans l'expression. Je ne sais pas si c'est d'atteint syntaxe ou pas. Toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi quand je suis acheté ton médecin.
Parce que
tu
commences.
En France. Dans les mots que je dis, il y a une erreur. Toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi, car je suis Hachem, ton médecin. Où est l'erreur? En français. Vous faites une raison comme ça en France, la maîtresse ou le maître, il vous dit, monsieur, il y a un problème dans le texte, ça se dit pas comme ça. Quelle erreur?
Non, s'il n'aimait pas, il n'y a pas besoin de foi.
Bravo. S'il ne l'aimait pas, il n'y a pas besoin de médecin. Le médecin est là pour guérir la maladie. Or, qu'est-ce que dit le verset? Je ne les mettrai pas sur toi car je suis Hachem ton médecin. Non, car je suis Hachem, Nekouda. Car si elles ne sont pas sur toi, pas besoin d'être un médecin. Bravo. Ça, c'est la question du Talmud. Il n'y a que les Juifs qui savent lire un verset. Personne d'autre qu'un Juif posera cette question-là, évidemment. Et donc, le verset est incompréhensible. Pourquoi Kiani Hashem Rofecha? Ça veut dire quoi? Nos maîtres expliquent, il y a plusieurs explications, que la médecine d'Hachem, c'est que quoi? C'est que la maladie ne vient pas. Et ça me fait penser à une lettre qu'un jour quelqu'un, un médecin, a écrit au rabbi très sérieusement, et il lui dit la chose suivante, écoutez, il lui dit, vous allez mieux comprendre après, il lui dit, écoutez, rabbi, j'ai un très 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 gros cabinet de médecine, j'ai 10, 15, 20, 50 médecins qui travaillent pour moi, grâce à Dieu, inutile de vous dire ce que je gagne. J'ai beaucoup de mal quand je fais la tfila, d'accord, Refaïn ou Hachem Bené Rafé, qu'on demande à Hachem de nous guérir, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, parce que si c'est Hachem qui nous guérit, ou quand le Mashiach va venir... Ah non, c'était pas ça. Non, la question était, j'ai beaucoup de mal à dire « Etzemar David Avdecha ». J'ai beaucoup de mal à demander la prière à la vue du Mashiach, parce que je sais, comme nous tous, que quand le Mashiach va venir, il n'y aura plus de maladie. Et donc quoi? Ça veut dire quoi? Que tout ce que j'ai investi dans ma vie, tout ce que j'ai appris, etc. Bon, il a posé cette question-là. Le PLS, c'est que s'il avait écrit cette lettre-là à Shammai, il aurait... Ah donc on va retarder la vue du Mashiach parce que tu as une belle affaire. Le rabbi a répondu comme il est. D'accord, il n'a pas foutu dehors. Il lui a dit, ne vous inquiétez pas, monsieur. D'accord, même quand le Mashiach viendra, on aura encore besoin de médecins. Et si vous me posez la question, mais pourtant c'est dit partout qu'il n'y aura plus de maladie, il a dit non, la médecine sera préventive. Ça veut dire que vous apprendrez aux gens comment ne pas tomber malade. Et il rapporte le verset qui a ni Hachem Rofecha, que la vraie médecine n'est pas de soigner le malade, mais de l'empêcher de le devenir. Ça c'est la vraie médecine. Ça c'est la médecine de la délivrance finale.
Ils font ça au Japon.
Comment ?
Ils font ça au Japon.
C'est-à-dire ?
Ils payent les médecins justement pour ne pas tomber malade. Ils les payent que quand ils vont les vendre.
Ah oui, j'avais déjà entendu ça. Quelqu'un m'avait parlé de ça, effectivement. Alors, dans cette médecine préventive qu'on peut comprendre au premier niveau, mais qu'on peut comprendre aussi au deuxième niveau, qui a ni Hachem Rofecha, ça veut dire que quoi? En vérité, mes amis, tout ce qu'Hachem nous a demandé de faire ou de ne pas faire, c'est pas uniquement comme malheureusement on comprend aujourd'hui et depuis des millénaires parce qu'on n'a pas d'autre choix possible. Bon, c'est pour la réussite future spirituelle, mais dans ce monde, c'est tout le texte qu'on a commencé aujourd'hui, mais dans ce monde... Dans ce monde, je connais quelqu'un qui mangeait hyper cacher, malheureusement, qu'à Dieu ne plaise, il est mort d'un cancer des intestins. Alors, ne me dis pas que la cacheroute, c'est bon pour la santé. Et on le voit tous les jours. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ce que le maître du monde nous demande de respecter ou de s'éloigner de, c'est bien sûr aussi pour notre santé physique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir le bénéfice et le mérite du dévoilement de ces énergies contenues dans le bien, qui permettent d'agir même sur le plan physique, c'est-à-dire qui proviennent du shrakim, il faudrait qu'on soit dans un état de pureté tellement inimaginable que les forces de shrakim arrivent à être plus fortes que les forces de shamaïm. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui arrive. Pourquoi? Et ça n'a rien à voir si la personne n'est pas bien ou pas. Le Hari HaKadosh est mort d'une épidémie à 38 ans. Quoi, lui, il n'était pas lié aux forces du Shrakim. Le problème, c'est que le Hari HaKadosh était peut-être l'héritier d'autres générations, etc., etc., qu'il n'avait pas forcément tout été Hari HaKadosh. Et déjà, il est de toute façon l'héritier, comme vous et moi, de la faute de Adam Harishon. Ce qui fait que de toute façon, jusqu'à la délivrance finale, les forces de Shamaïm sont beaucoup plus fortes que les forces de Shrakim. Et donc, même si je suis le Hari HaKadosh, peut-être que les forces de Shrakim qui sont en moi n'arriveront pas à prendre le dessus sur les forces de Shamaïm. C'est-à-dire que si je me trouve dans un endroit où il y a une épidémie, j'ai beau m'appeler le Hari HaKadosh, je ne peux pas à moi tout seul repousser les microbes de 1000 personnes. Parce que Shamaïm est plus fort que Shrakim. Mais, l'Eatid Lavo, à partir du moment de la délivrance, à ce moment-là, les forces de Shrakim seront beaucoup, beaucoup plus fortes que les forces de Shamaïm. Et donc, quelqu'un qui mangera kasher ne pourra plus tomber malade. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il sera en présence d'un microbe ou d'un virus, comme il mange kasher, il a une muraille d'énergie positive de Shrakim qui empêche le microbe. C'est comme des défenses naturelles. C'est-à-dire que les défenses naturelles seront justement celles du monde de Shrakim. Et donc, en vérité, c'est ça le Ani Hachem Rofecha. Ça veut dire que toutes les maladies venant du Shamaïm n'auront plus d'effet sur toi. Pourquoi? Parce que toi, tu seras constamment en état de médecine préventive grâce au fait que Vayayim Shamoa Tishmou, c'est que vous écoutez ce que je vous demande de faire. Et à ce moment-là, le monde sera lié à Shrakim et automatiquement... Shrakim est plus fort que Shamaïm dans le monde de la délivrance, oui.
C'est pas forcément les énergies qui se dévoileront plus, c'est pas plutôt l'état qu'on est aujourd'hui qui est dans un état de stima, parce qu'aujourd'hui quand on a la Touma Tmet et qu'on a dit que la Touma c'est la stima, bon, en fait on est Satoum par rapport à ces énergies qui sont là mais qu'on peut pas apercevoir.
100% d'accord, c'est qu'en vérité c'est ça, la Touma qui est descendue dans le monde, la fermeture qui est dans le monde, plutôt en nous, c'est que le canal de Shrakim est complètement satoum, atoum, touma, il est complètement fermé et bouché. C'est, on est en état de cholestérol spirituel depuis la faute d'Adam Harishon. Tous les canaux sont bloqués.
Et comme les forces de Shamaï...
Les tzadikim arrivent à débloquer un peu plus, quelques fissures dans le bouchon. Maintenant, le premier qui arrivera à faire sauter le bouchon complètement, c'est Mashiach.
Et c'est pour ça qu'il crée la bouche de l'ânesse avant la création du monde.
Oui.
Parce que ces forces-là sont tellement puissantes.
Parce qu'elles existent. Quand l'ânesse s'est mise à parler, bien qu'aujourd'hui ce n'est plus un miracle, parce qu'aujourd'hui tous les ânes parlent, il n'y a que qu'on entend d'ailleurs. D'accord, les chefs des gouvernements, les machins, etc. C'est que des ânes qui parlent aujourd'hui. Donc, mais à l'époque c'était un miracle, on n'avait jamais entendu un âne parler. Aujourd'hui en France, aux États-Unis, partout, dans tous les pays du monde, il n'y a que des ânes qui parlent. Mais à cette époque-là c'était un miracle, donc même ça, ça a été dépassé. Parce qu'à mon avis, je veux dire, les dirigeants politiques aujourd'hui qui passent, c'est un plus grand nest que l'ânesse de Bilam. Mais revenons maintenant à ta question, c'était juste mon humour à dessous. Parce que j'ai l'occasion, je la loupe pas, tu comprends. Mais je reviens maintenant. Non, mais parce qu'effectivement, je veux dire, il faut vraiment être un âne pour dire non, mais ça va, on est en train de vraiment de terminer la négociation avec l'Iran, le monde n'a pas à s'inquiéter, etc. Et il y en a qui disent, mais enfin, c'est un vrai miracle, l'âne de Bilam qui s'est mis à parler. Ben, je vous assure que les dirigeants aujourd'hui sont beaucoup plus ânes que l'âne de Bilam. Donc, ce qui veut dire que le fait qu'ils arrivent à parler, c'est un plus grand miracle. Parce que normalement, ils devraient être sur quatre jambes avec des sabots et faire Iran. Le miracle, c'est qu'ils ont une forme humaine. C'est ça le miracle. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Je vous promets que là, je ne plaisante plus. Le miracle est que ces gens-là sont des dirigeants de pays. Ça, c'est un miracle. C'est surnaturel. Comment un âne peut être élu à la tête de la France ou des États-Unis ou je ne sais quoi. Ça, c'est un vrai miracle. J'espère qu'il n'a pas été entendu tout partout ce cours. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien qu'il y en ait un qui se suicide pour dire la vérité. Je reviens maintenant à ce que tu expliques. Effectivement, et là, je le dis avec le plus grand sérieux possible, pourquoi un homme parle et pourquoi un animal ne parlerait pas? Pourquoi? Mais la réponse, tous les scientifiques la connaissent. C'est parce qu'il y a dans le cerveau de l'homme, d'accord, des choses qui permettent à un homme de parler que l'animal n'a pas. Certains, oui, comme le perroquet, par exemple. Très bien. Mais ça, c'est dans la réalité du cerveau de Shamaïm. Mais le cerveau de Shrakim, qui te dit qu'il fonctionne comme ça, l'âne a aussi un cerveau, puisque un dirigeant français en a un. Donc forcément, l'âne aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'est mis à parler? Ça veut dire que Hachem a prévu qu'on a le cerveau d'un âne, il y a des énergies qui généralement sont fermées, et c'est pour ça que l'âne ne peut pas parler. Mais le jour où Hachem décide que ces énergies puissent agir, il se met naturellement à parler. Alors pourquoi nos maîtres disent que ça a été prévu avant la création? Parce que dès le départ, ce potentiel existait dans le cerveau, pas seulement de l'âne de Bilam, de tous les ânes. Sauf que chez l'âne de Bilam, Hachem a décidé de quoi? De l'ouvrir. Et il s'est mis à parler.
C'est les deux tuyaux.
Comment? La vérité est que la raison pour laquelle on ne fait pas de bracha quand on met les tefilines de Rabbi Noutam, c'est parce qu'elles viennent d'un monde qui est tellement haut que nous n'avons pas la possibilité d'en capter la source. Le mot bracha, c'est pas de moi, c'est du Ben Ishraï, et repris par quantité d'autres. Le Ben Ishraï dit pourquoi nous ne faisons pas de bracha avant de mettre les tefilines de Rabbi Noutam. Parce que le mot bracha vient de la racine brecha qui veut dire source. Lorsque tu fais une bracha, tu te connectes à la source de la chose. Avant de manger, avant de boire mon café, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shehakol Nia Bidvaro. À ce moment-là, je me suis connecté à la source de cette matière, ce qui va faire que quand je vais boire, je ne vais pas recevoir uniquement les énergies du café dans sa dimension matérielle, mais des énergies positives aussi qu'il y a dans le café qui vont aussi nourrir mon âme et me donner de la force pendant que je fais mon cours. Maintenant, les tefilines de Rabbi Noutam viennent d'une source qui est tellement haute que l'homme ne peut pas par son effort à lui se connecter à elle. C'est que Hachem qui décide de l'ouvrir, et c'est le monde de Shrakim bien évidemment. C'est pour ça que les tefilines de Rabbi Noutam aujourd'hui sont extrêmement importantes. Pourquoi? parce que tu commences, en mettant le film de Rabbi Noutam, tu commences à te préparer, tu commences à connecter le monde à ce dévoilement qui va bientôt se faire au moment de la délivrance, où tout d'un coup, notre monde qui était uniquement Shamaïm va se connecter au Shrakim, et on va passer dans une dimension d'un dévoilement inimaginable qu'on ne peut même pas encore imaginer ce qui va se passer. Et les films de Rabbi Noutam commencent, c'est comme une antenne, commencent à nous connecter, à nous préparer à... Ce qui veut dire, si je voulais dire de la manière la plus simple possible, quelqu'un qui met les films de Rabbi Noutam aura plus de facilité, pas seulement à comprendre, mais à intégrer les notions d'un cours comme celui-là, que celui qui ne les met pas. Celui qui ne met pas les films de Rabbi Noutam sera beaucoup plus cartésien, sera beaucoup plus logique et écoutera ces notions-là avec... cause toujours. Avec toutes les nuances du cause toujours. Quelqu'un qui met les films de Rabbi Noutam, il baigne dans ces notions-là sans aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà connecté au monde de Shrakim. C'est pour ça que tous ceux qui vont à l'Pi-Kabbalah, les Hasidim et beaucoup, beaucoup d'autres mettent les films de Rabbi Noutam aujourd'hui. Qui ne met pas les films de Rabbi Noutam, comme par hasard ? Les Yeke, ou les Litvak, ou les Sfaradim Pshat-Pshat. C'est-à-dire ceux qui sont encore au niveau du Niglé. J'espère que d'après ce cours, tous mes élèves mettront les... C'était intentionnel, hein, bien sûr. Vous avez imaginé que j'avais, grâce à la question de Michael, une intention de régler mes comptes avec ceux qui ne mettent pas encore les films de Rabbi Noutam. Comment ? Vous me demandez, je vous dirai. Très bien. Oui. Oui. Ah, Olivier a dit qu'on fait fausse route. Très bien.
Est-ce qu'on ne fait pas un peu fausse route en essayant d'expliquer le caractère un peu technique des miracles, etc. Parce que les miracles dans la Torah, elles ont lieu à un moment donné précis, dans des circonstances historiques exceptionnelles, pour délivrer un message. Et c'est ça l'essentiel du message de la Torah. C'est pas de dire, vous expliquer comment ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne pas. Nous, on n'est pas capable de comprendre ça. Par contre, on doit dire, c'est le message de ce que nous donne. C'est miracle. Alors, on le voit, c'est en Égypte, on le voit.
L'essentiel de la réponse
est maintenu, on le voit avec
l'essentiel.
La réaction du fils de la Shulamite. Voilà, c'est ça l'important.
L'essentiel de la réponse à ta question sera dans la suite que je n'arrive toujours pas à faire. Enfin, je crois que c'est le dernier cours et je me rends compte que c'est l'avant-avant-avant-avant-dernier, grâce à vous. Tant mieux pour toutes les questions qui sont posées, ce qui permet d'enrichir le cours. Donc, mais la réponse à ta question, c'est seulement dans 10 ou 15 lignes, peut-être dans 3 ou 4 cours. Maintenant, malgré tout, pour avancer les choses, il faut savoir qu'effectivement, que j'ai un contexte, machin, mais c'est la réponse que j'ai donnée à Mordechai. Ça veut dire quoi ? C'est qu'Hachem a prévu dans la création que si un jour le monde se trouve dans tel contexte et qu'il a tel besoin, les énergies venant de Shamaï n'étant pas suffisantes, alors s'ouvriront et se dévoileront et donc influenceront les énergies de Shrakim. C'est une véritable science. Ça veut dire que Hachem a prévu que si un jour, parce que c'est ce qui est marqué à propos de cette question qui est tellement connue que tu as suggéré à propos de l'ouverture de la mer. Nous, avant d'étudier la Torah, on était sûr que l'ouverture de la mer, c'est que bon, ben, Hachem a fait un miracle. Nos maîtres nous disent que l'ouverture de la mer était prévue déjà avant la création du monde. Alors, bien sûr, tout le monde pose la question, mais attends, mais Dieu, il fait ce qu'il veut, il a besoin de prévoir. Mais la réponse, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est cette science.
Non, mais le Rambam,
un instant, je te réponds.
La sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, c'était un phénomène historique exceptionnel.
Mais c'est ce que je t'explique.
Il n'y avait pas vocation à se reproduire.
Mais je suis en train de te répondre.
Mais
c'est ce que Olivier, je t'en supplie. Olivier, je fais l'effort d'écouter ta question. Fais l'effort d'écouter la réponse. La question était, pourquoi nos maîtres ont-ils besoin de dire qu'avant même la création du monde, Hachem a prévu et a demandé à la mer que le jour où ça serait nécessaire, elle s'ouvre.
C'est un langage. Pour chaque juif, Hachem, il fait des miracles quand il y a besoin.
Donc, alors, pas besoin de parler à la mer. J'ai besoin de te prévenir, toi, la mer, qu'il va falloir que tu t'ouvres dans des millénaires. Je n'ai pas besoin de te le dire. Ce qui prouve donc qu'un miracle n'est pas une intervention ponctuelle maintenant d'Hachem parce qu'il décide. Non, contrairement à ce qu'on a appris au Talmud Torah c'est ou l'a dit au catéchisme. Non. C'est une règle qui est inscrite à l'intérieur de la nature. C'est ça le décodage de la métaphore. Hachem a parlé à l'eau, c'est-à-dire qu'il lui a donné la propriété de s'ouvrir
si besoin est.
Maintenant, le si besoin est, c'est le contexte très particulier de la sortie d'Égypte. Maintenant, pourquoi c'est très important de le savoir, ça ? Pourquoi on ne reste pas avec l'idée puérile, catéchisième ou les Avdil Talmud Torah N, ce qu'on a appris quand on avait 11 ou 12 ans, que non, Hachem a décidé d'ouvrir la mer Nekuda. Pourquoi c'est très important? Parce que si je dis c'est Hachem qui a décidé Nekuda, ça t'enlève toi toute responsabilité. Mais si je dis que ces forces existent dans le monde, et comme on va le voir dans ce texte, je n'arrive toujours pas à faire, qu'en vérité, et le levier qui actionne ces forces, c'est l'homme, ça veut dire que ça te place en face de responsabilités inimaginables, c'est-à-dire qu'à chaque instant, il ne dépend que de toi de faire fonctionner Shrakim et de neutraliser Shamayim. Et qu'en vérité, que si le miracle ne se passe pas, c'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est parce que toi, tu n'as pas pour l'instant fait ce que tu dois faire. Ça veut dire que le judaïsme est la seule sagesse au monde qui arrivera à la conclusion que je n'arrive toujours pas à atteindre, que ce n'est pas Dieu qui fait le miracle, c'est l'homme. Et une fois de plus, l'homme, et c'est tellement juif, l'homme est replacé au centre de toutes les responsabilités.
C'est Bouddha dans l'ouverture de l'ordre, parce que quand il s'est jeté dans l'eau, sa miséricorde est faite, et qu'il s'est éclaté dans la mer rouge.
Il a attendu une archer dans l'eau jusque-là.
À partir de là, quand il y a eu l'action de l'homme, là, le déclenchement du miracle est fait.
Ce qui prouve bien que ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de l'homme. Ce qui veut dire qu'à chaque instant.
Peut-être qu'il n'a pas besoin de fonctionner les miracles.
Mais encore une fois, ce n'est pas des miracles. Mais c'est ça le problème, ce n'est pas des miracles. Simplement que comme nous n'avons pas, par nos fautes, nous n'avons pas l'habitude de dévoiler ces forces-là, on a besoin des miracles. Mais ce n'est pas un miracle. C'est tout aussi naturel que l'eau s'ouvre, que l'eau coule. C'est ça que je veux finalement vous expliquer. Ça veut dire que si on était, d'où vient la famille Abouhatsira, Baba Salé, d'où vient le nom Abouhatsira? Les Marocains, c'est pas moi, c'est vous. D'où vient le nom Abouhatsira? Le grand-père Rabbi Yaakov était poursuivi par les autorités égyptiennes parce que il dérangeait les Égyptiens. Si, il s'est enfui, c'était en Égypte. C'était sûr et certain, c'était en Égypte. Il est arrivé devant un point d'eau, il ne pouvait pas le traverser, il y avait un soldat qui courait pour l'attraper et le tuer. Il a pris son foulard, d'accord, il avait son grand turban, il a pris son foulard, il l'a mis sur l'eau, il est monté dessus et il a traversé. Et ça, c'est Abou, le père Hatsira du foulard.
Hatsira, c'est un tapis.
Voilà, d'accord, c'est ce que je dis.
C'est pas un foulard.
Bon, un tapis.
Moi, je connais la version.
Oui.
La version que je connais,
si vous pas
il devait aller faire un cimetière à Mitzvah, Brit Mila ou Bar Mitzvah, et il devait traverser un fleuve.
Ok, Abraham, ça je suis d'accord. Il peut y avoir 1000 versions sur la forme.
Il avait sur Hatser ce petit tapis qui est déroulé pour s'asseoir.
Mais on est d'accord sur le fond, on n'est pas d'accord sur la forme. Le fond, c'est qu'il a traversé sur un tapis, sur un foulard, il a traversé l'eau. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il a vécu le miracle de la traversée de la mer. Ça veut dire quoi? D'une autre manière. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de prouver que l'eau pouvait être solide et non liquide. Parce que si l'eau avait été liquide, il se serait enfoncé.
Et c'est pour ça qu'on te dit que quand tu vas voir un tzaddik, l'important, c'est pas le tzaddik lui-même, c'est le chemin que tu vas faire. Ça veut dire que c'est ta volonté à toi, c'est ton ratson, c'est ton cheminement vers. C'est ça qui est important, c'est ça qui va te
voir. Bien sûr, tu te prépares à recevoir.
Pour recevoir des énergies positives. C'est le chemin que tu vas faire.
On dit de suivre les conseils du tzaddik.
Ah mais d'accord.
Alors maintenant regardez. Si donc,
n'achète pas,
on a déjà de toute façon, on a devancé le texte écrit déjà énormément grâce à vos questions, mais je veux malgré tout revenir au texte écrit parce que c'est très important. Regardez ce qu'il dit. Donc, d'après ceux qui croient que le monde de la nature est complètement déconnecté du monde du miracle, automatiquement la notion de récompense et de punition provient forcément du monde du miracle et non du monde de la nature. C'est ce qui était le début du cours qui a amené toutes les discussions. Pourquoi? Parce que d'après la nature, d'accord, si tu es dans un endroit où il y a une épidémie, tu meurs. Si tu es dans un, même si tu es un tzaddik, et si tu fuis l'épidémie, tu seras sauvé, même si tu es un rachat. Donc la nature ne connaît pas l'identité de la personne. Elle connaît que son corps. Le microbe rentre ou il ne rentre pas. Nekuda. Donc si tu t'es retrouvé dans un lieu où il y a la peste et que tout le monde est mort sauf toi, parce que tu étais un tzaddik, c'est que forcément, Tu as été sauvé grâce à des énergies qui ne proviennent pas de la nature, mais qui proviennent donc non de Shamaïm, mais de Shrakim. Ça, c'est comme ça que tout le monde comprend, c'est-à-dire tous ceux qui croient au miracle. Rak, donc, Alpi Seder Acher, on est donc obligé d'expliquer qu'il y a eu donc une autre règle qui s'est dévoilée pour celui qui a été sauvé, Nissi, qui provient du miracle, Imirtse Hachem, parce que Hachem le veut, les gomlo, le récompenser, ou les honcho, le punir. Ça veut dire c'est dans le bien comme dans le mal. Ad, Sheitztarer, donc d'après cette vision qui est fausse, c'est déjà une vision hautement religieuse, mais vous allez voir, elle est fausse. D'après cette vision-là, on est donc Sheitztarer ala gemul, veaonesh, on est donc obligé de dire que pour chaque punition, pour chaque récompense, il faut ratzon yorad, il faut que maintenant Hachem le veuille, maintenant. Puisque selon la loi de la nature, tu n'aurais pas été sauvé. Donc si tu es sauvé, c'est parce que maintenant Hachem décide de quoi ? De bloquer la nature et de te sauver. Donc c'est maintenant ponctuellement, le contraire de tout ce qu'on a expliqué bien sûr, c'est ça que c'est faux. Mais Hachem ve'anaga hadasha. Donc on est obligé de dire que c'est comme si maintenant il y avait une nouvelle volonté d'Hachem, bebilti emtsai, sans le moindre intermédiaire. Ça veut dire pas parce qu'il utilise de nouvelles forces, mais parce qu'il décide de sauver. Aval, mais toujours d'après cette conception-là, kol od shetuna rateva, si Hachem avait laissé la nature fonctionner, al mechonata, selon sa logique, yitzuyar shi'avru reshaim averot de lot, d'après la nature, on peut très bien trouver de grands méchants qui font les pires choses, ve'yatzlichu, et qui vont réussir, ve'tzadikim yu be'onim, et on va trouver des justes qui font un bien incroyable, et qui vont mourir de maladie, qui vont pas gagner leur vie, qui vont, etc., etc., parce que d'après la loi de la nature, il n'y a aucune différence entre un juste et un méchant. Ba'asher, puisque d'après cette théorie-là, en kesher le ma'ase bnei adam imchuke ateva, comment veux-tu que les actions de l'homme puissent influencer la nature ? Ou baiser, et maintenant, si on dit ça, à ce moment-là, on ouvre la porte au mal, on ouvre la porte au yetzara, dit-il. C'est pour ça que c'est interdit de penser comme ça. Bien que, alva, déjà tout le monde pense ça. C'est déjà de la haute croyance. Mais en réalité, cette croyance-là, elle engendre le Yitzhara, elle engendre le mal. Pourquoi ? Ou baiser, c'est justement à cause de ce genre de croyance, Yit'on a pécha, que vient le Yitzhara et il dit, les morts, En pachad Elohim le negadeina. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que qu'est-ce que tu vas ? Tu vas vivre tout le temps avec l'angoisse que Dieu, il va agir, il va faire un miracle, puisque pour pouvoir te punir ou te récompenser, il faut des miracles. Il faut quelque chose qui est complètement surnaturel, la science-fiction. Puisque de toute façon, pour pouvoir dire que tu vas être puni ou récompensé, il faut faire allusion à quelque chose qui vient d'en dehors de la nature. Donc, bon, allez, cause toujours jusqu'à ce que ça se... etc., etc. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? À partir du moment où l'homme a le sentiment que son comportement moral n'a aucune incidence sur, finalement, son évolution dans ce monde, et que, finalement, ce monde se fiche royalement de savoir comment qu'il se comporte, ça veut dire que tu gagnes de l'argent proprement ou salement. L'argent n'a pas d'odeur, comme on dit. Donc, de toute façon, c'est pas parce que tu fais quelque chose qui est sale que tu vas forcément faire faillite, et vice versa. C'est pas parce que tu t'efforces d'avoir un travail propre que tu vas forcément t'enrichir. À partir du moment où c'est ce que tu penses, d'accord, finalement, le Sera, il finira par t'avoir. C'est comment qu'il va dire, regarde, il va te dire, mais attends, jusqu'à quand tu vas être l'idiot du village? Regarde ce qu'ils font tous, ils s'enrichissent. Tu vas être le niais, toi. Non, mais arrête, mais fais comme tout le monde. Jusqu'à quand ? Fais comme tout le monde. Tu vas même, tu t'en sors pas. Arrête avec tes principes. Dans ce cas-là, reste à l'église. Tu ne peux pas être dans les affaires. Tu ne vas pas t'installer des bureaux qui te coûtent une fortune à Wall Street. Et puis tu vas t'amuser à être un moine. C'est pas possible. Tu fais un choix. Donc, le Yatsari va commencer à te dire, mais attends, tu rentres dans le monde matériel. Vit selon les règles de la matière. Et ils arrivent tous à nous avoir. Tous. Pourquoi ? Parce que finalement, on se dit, c'est vrai, je ne peux pas être un religieux dans un monde sans âme. Ça ne marche pas. Si je veux être un religieux, ben je reste à la yeshiva, Nekouda. Donc, si tu commences à dire que les deux mondes sont séparés, Qu'est-ce que le Yatsar va te dire un jour? Choisis ton camp. Et comme le Yatsar, il sait très bien que j'ai pas envie d'être un rabbin, d'accord? J'ai pas envie d'être un moine, ce qui est la même chose. Et donc, automatiquement, j'ai envie, moi, d'être un homme investi dans ce monde. Et bien, le Yatsar, il va me dire, ben, fais ton choix, mon vieux. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire le choix de la nature. Très bien. Attends, mais il est malin, il va dire, attends. Attends, mais je peux te poser une question, Yatsara? D'accord. Je fais le choix de la nature. Mais un jour, le bon Dieu, il va peut-être me reprocher d'avoir triché dans les affaires. C'est ce que tu lui diras. Tu diras, écoute, maître du monde, t'as créé un monde dans lequel on ne peut pas être honnête dans les affaires. C'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Et tu verras que ça va marcher. Et là, on est fichu, il nous a eu. Parce qu'effectivement, 99% des gens bien, bien au départ, qui se sont mis à devenir des crapules, c'est parce qu'un jour, ils sont arrivés à la conclusion qu'après tout, c'est lui qui a créé ce monde comme ça. On ne peut pas gagner de l'argent si on est honnête. Alors, il avait qu'à créer un monde différent. Il est plus là. Et c'est comme ça que... Ça, c'est le dernier coup de grâce. On sait tout savoir.
Ça, c'est le raisonnement des sables.
Comment?
Et ça, vous connaissez toute la Torah, mais ça le souhaite.
Bien sûr. C'est le raisonnement des sables. C'est la séparation entre l'Église et l'État. C'est exactement ça. Ça veut dire, tu es un homme bien le dimanche, tu es une crapule du lundi au samedi. D'accord. Exactement. Ça, c'est la séparation. C'est ça. C'est, on ne peut pas, il n'y a pas de possibilité d'être un homme bien dans le monde. Maintenant, vous allez voir qu'à partir de maintenant, il va détruire toute cette théorie et il va construire une nouvelle théorie pour vous dire un truc fou. Il n'y a que les gens bien qui réussissent matériellement et toutes les crapules, elles font faillite.
Les fils par pays.
Voilà. Elles font toutes faillite. Il n'y a que les gens bien qui réussissent.
Comment vous connaissez ça?
Ah, comment? Mais non, le problème, c'est comment c'est possible, puisqu'apparemment, on voit tout le contraire.
C'est pas
mais non, alors justement.
C'est pas la réalité.
Attends, alors maintenant, le problème est... Est-ce que c'est pas la réalité ou c'est pas la réalité telle que tu la vois? C'est ça le problème. Je veux dire, on est rentré dans un truc fabuleux. Comment?
Ça dépend de chacun ce qui définit pour lui la réussite.
Oui,
la réussite, c'est 25 maisons et 10 voitures. Ouais. J'ai pas réussi, c'est d'être bien dans mes comptes et d'être tranquille tous les matins. J'ai réussi.
Je vais te raconter une histoire qui est le début de la réponse. De toute façon, on pourra pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Michael, je sais à quoi tu fais allusion. Michael, tu sais à quoi tu fais allusion, toi, je vais te dire. Bon, c'est vrai, en étant honnête, je suis pas devenu aussi riche que mon voisin qui est une vraie crapule, mais lui, il a divorcé 4 fois, et moi, Baruch Hashem, j'ai vécu 50 ans avec la même femme. Moi, j'ai réussi dans ce qui me paraît l'essentiel. C'est ta réponse. Ça veut dire qu'il a peut-être réussi dans l'argent, mais il a raté dans la grande familiale. Ou, très bien, alors, ou même dans l'argent, moi, avec mes 10 000 shekels par mois, très bien, je préfère 10 000 shekels propres que 100 000 shekels sales. Donc, c'est ma réponse ou la tienne, je l'ai compris. Maintenant, je ne vais pas répondre maintenant à ta réponse qui est fausse, parce que tu ne sais pas encore ce qui te réserve comme surprise, mais je vais te raconter une histoire pour préparer ce qui sera le prochain cours. C'est une histoire qui dit la chose suivante, un maître qui enseignait toujours à ses élèves, d'accord, que si quelqu'un il a un bitachon, une émouna de fer, mais pas la moindre ombre, le moindre soupçon qu'il croit, c'est sûr qu'il va gagner, d'accord. Et puis il enseignait ça, et puis il a dit à ses élèves, le jour où vous vous sentez prêt à un test dans le bitachon, dans l'émouna, vous venez me voir. Au bout de quelques mois, il y en a un qui vient d'y mettre, tu peux me tester dans n'importe quoi, j'ai un bitachon de folie. Tu dis très bien, tu vas aller, tu es prêt à acheter un billet de loto? Oui. Tu es prêt à acheter un billet de loto et tu es sûr que tu vas gagner? Mais c'est évident, maître, j'achète et je le gagne.
Oui.
Très bien, va l'acheter. La cagnotte, elle était à 1 million d'euros. Il va l'acheter, il revient. Il dit, tu es sûr que tu vas gagner? Maître, j'ai déjà été voir un promoteur immobilier, je suis déjà en train de faire les plans sur ma future maison. Très bien. Écoute, je vais te dire quelque chose. Maintenant, regarde. Tu es mon élève, regarde. J'ai un gros problème à la yeshiva, d'accord. On va devoir fermer. Et j'ai besoin vraiment d'argent. Regarde, tu sais quoi, regarde. Tu es prêt à me céder ton billet. Tu vas gagner 1 million dans un mois. Tu sais quoi, regarde, je te l'achète maintenant. 400 000 euros, tu prends les 400 000 euros maintenant, tu me donnes ton billet. Quand lui réfléchit, il dit, pas mal, tiens, après tout, il donne un morceau de papier. Il prend et donne-moi les 400 000. Il dit, tu vois, tu n'as aucun bitachon, tu n'as aucune émouna. Pourquoi? Parce que si tu avais été sûr et certain que tu vas gagner 1 million, d'accord, tu vends ton papier pour 400 000. Donc tu n'as pas la haine. Parce que si tu étais sûr et certain, tu m'aurais dit quoi? Vous savez quoi, maître? D'accord? On attend encore un petit peu. Je gagne 1 million, je vous promets. Ce que vous avez besoin, je vous le donne. Mais comme tu t'es précipité, ça prouve que tu t'es dit quoi? Mieux vaut un sûr que deux. Ça veut dire que ce que lui va nous expliquer, mes amis, d'accord, je ne voudrais pas vous donner la cerise avant le gâteau, mais après on va le construire, c'est que si un homme avait une émouna inébranlable, mais de fer, de béton, c'est pratiquement introuvable, je vais vous expliquer pourquoi c'est pratiquement introuvable, que même s'il fait des affaires propres, c'est lui qui va réussir, il deviendrait multimillionnaire même avec des affaires propres. Ça veut dire, pas comme tu as répondu, Michael, moi, mes 15 000 ou mes 10 000 shekels propres, ça me suffit. Non. Non, 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 non. Vois grand, Michael. Parce que si tu gagnes 1 million d'euros, quelqu'un comme toi va faire de grandes choses avec 1 million d'euros. Pas une nouvelle maison, mais beaucoup de biens. Pourquoi tu ne gagnerais pas? Pourquoi les 1 million d'euros? Pourquoi les 1 million d'euros sont entre les mains de ceux qui travaillent salement?
Moi, c'est mieux.
Youssef, je ne suis pas en train de présenter maintenant. Pourquoi 1 million d'euros? Ah oui, ou Youssef, je n'ai pas compris la raison. Ou Youssef. Pourquoi les 1 million d'euros ne sont pas entre les mains? Pourquoi c'est toujours les méchants qui ont 1 million d'euros? Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'eux, ils vont d'après les lois de la nature, et d'après les lois de la nature, quand tu es méchant, leur nature à eux. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que nous, on n'est pas capable de rentrer dans la finance et rester propre, parce qu'on n'essaye même pas, on sait qu'on va se faire déchirer. Et donc, on cherche autre chose, de plus de sanoua, de plus, où je sais que je pourrais être propre, parce que selon mon métier, il ne m'oblige pas forcément à. Non. Le problème, c'est que si on rentrait dans la finance, à titre d'exemple, peu importe, en se disant, d'accord, ils peuvent monter et descendre, ils ne meuront pas, je parle aux épreuves, aux tentations, ils ne meuront pas, je suis sûr que je vais devenir le meilleur dans la finance, des gens comme nous se retrouveraient à la tête de 100, 150, 1 milliard d'euros, en distribueraient, en veux-tu, en voilà, à tous ceux qui vont avec cet argent à faire du bien. Et les Réchaïm verraient que faire le bien, ça paye plus que faire le mal. Et finalement, tout le monde se mettra à faire le bien. Le problème, c'est qu'on n'a encore jamais trouvé sur Terre, jamais sur Terre, un homme qui est capable de rentrer dans la gueule du loup et de dire, j'ai pas peur qu'il referme sa gueule sur moi. Je serai plus fort que lui. Ça se trouve pas. Et c'est pour ça que ça marche pas, ça fonctionne pas. Il n'y a pas cette expérience-là. Il n'y a pas suffisamment d'hommes sur Terre qui vont prouver que la nature peut fonctionner différemment que son fonctionnement. Voilà. Et la raison est que quand vous dites « mais ça ne se voit pas », c'est parce qu'il n'y en a pas suffisamment qui essayent. Pourquoi? Parce que ceux qui ont déjà essayé n'étaient pas suffisamment forts et au bout d'un certain temps, ou pour ne pas tomber, ils sont retournés à la yeshiva. Oh, ils sont tombés comme tout le monde.
C'est pour ça que la Torah nous précise qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient très très riches.
Mais bien sûr, c'est bien sûr. Et c'est pour ça que Rabbeinu Akadosh était très 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 riche, alors qu'on l'appelait Akadosh. Et quand il est mort, il a levé ses mains, ça, il a dit à Hachem, moi qui ai été dans ma génération aussi riche que César de Rome, alors qu'il vivait en exil, c'était déjà à l'époque du destruction du temple, moi qui étais aussi riche que César, je témoigne devant toi maintenant quelques secondes avant de mourir, donc je ne suis pas en train de rigoler, que je n'ai pas profité de ma fortune, même pas avec mon petit doigt. C'était que pour faire du bien. C'est pour ça que quoi? Que Hachem lui a donné à lui la fortune de César. Mais parce que lui, il a été capable de montrer que ce que vous croyez être la réalité n'est que la réalité partielle. Je vais vous montrer moi que la réalité, elle est très différente de la vôtre. Que c'est précisément ceux qui s'acharnent en dépit de toutes les épreuves et les tentations à faire le bien, c'est eux qui réussissent. Mais le problème, vous savez, pourquoi c'est difficile? Parce que le rachat, lui, il n'a pas de problème. Tout de suite, il se fait 1 million d'euros. Mais le tzaddik, lui, il va se faire 10 millions d'euros. Mais pour y arriver, il va devoir traverser un tunnel de tellement de tentations, tellement d'épreuves, tellement de difficultés, parce que Hachem le teste. Hachem teste son bitachon. Hachem va l'amener au bord d'une faillite. Mais vous avez une histoire, et je terminerai sur plus qu'aujourd'hui, bon, c'était un cours un peu spécial aussi, un peu différent, mais une histoire authentique. Dans le monde Chabad, un des plus grands riches s'appelle, tout le monde le connaît. Non, celui qui a les. Il a... Non, il est en Australie. Oh, Gutnik. D'accord. Comment qu'il est? Un Australien. Gutnik, son histoire, elle est connue dans le monde entier. Un multimilliardaire. D'accord? Comment qu'elle a commencé? Il vivait en Australie. Son père était rabbin. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas un sou. Il avait de quoi vivre, sans plus. D'accord? Et un jour, il a fait partie, un jour, il y avait toute une réunion des chassidim. D'accord? Et le rabbi a dit, qui veut devenir riche? Il y avait plusieurs centaines de chassidim, mais on n'ose pas. Comment? Il y en a cinq qui ont levé la main. Cinq sont milliardaires aujourd'hui. Mais l'histoire de Gutnik, c'est la plus belle de toutes. Il a levé la main. Qu'est-ce qu'il a à perdre, un fils de rabbin? Pourquoi pas? Il a levé la main. D'accord? Très bien. Il dit, mais attention, vous faites ce que je vous dis de faire. Très bien. Il est retourné en Australie. Au bout d'un certain temps, il reçoit une lettre signée par le secrétaire, le Rav Groner, d'accord? À tel endroit, tu vas acheter un terrain et tu vas commencer à creuser. Il n'a déjà pas un sou pour lui. Acheter un terrain, il a demandé au rabbi, comment j'achète le terrain? Il dit, tu empruntes. Il est parti, il a été à la banque, il a emprunté, d'accord? Et le rabbi il dit, et qu'est-ce que je fais maintenant? Tu achètes des machines, des perforeuses, machin, etc. Mais attends, il faut que je réemprunte sur l'emprunt. Tu réempruntes, tu mets ta maison en gage, tu mets tout en gage. Rabbi, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Très bien. Il va. Et il creuse. Rien. Il vend sa maison, il fait des emprunts, etc. Il y a constamment des lettres au rabbi. Qu'est-ce que je fais? Tu continues à creuser. Quand il lui restait plus rien et qu'il avait déjà une armée de huissiers pour le vendre lui avec sa chemise, etc., il découvre les premiers diamants. Depuis, sa fortune, elle est dans des millions d'autres choses. Il découvre les premiers diamants. Quel était le test? Le test était que quoi? C'est qu'attends, c'est quoi qu'il veut devenir riche? Qui a un bitachon suffisamment fort pour y croire jusqu'au bout? C'était l'investissement. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les institutions rabat dans le monde, elles sont entretenues, sauf la mienne, elles sont entretenues par Gutnik. Mais le... Comprenez? C'est ça le test. Mais le problème, c'est que personne n'a le courage d'arriver jusqu'au bout pour que cette vraie réalité se dévoile, que le monde matériel ne fonctionne pas uniquement d'après les méchants, il fonctionne d'après les sadikim aussi. Mais il faut y croire. On s'arrête là pour aujourd'hui.